tout ce qui a été apporté. Et on bénit le Seigneur aussi pour son esprit qui nous unit. Il y a un fil conducteur ce matin et je bénis Dieu parce qu'on va continuer sur ce même fil conducteur. J'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu pour vous délivrer, dira l'Éternel, devant Moïse. J'ai vu, j'ai entendu. Et ce matin, je remercie le Seigneur pour toutes les personnes qui se sont avancées. Et puis, toutes les personnes qui n'ont pas osé s'avancer sont bénies aussi. Parce que je crois que le Seigneur aussi entend le cri des cœurs. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et je crois que tout ce que nous traversons n'est pas vain. Tout ce que nous côtoyons au quotidien, c'est la précision de Dieu pour nous faire grandir. Dieu nous fait grandir jour après jour, et peut-être on ne s'en aperçoit pas nous-mêmes, mais sa volonté, c'est que nous soyons matures et que nous portions du fruit à sa gloire. Et j'aime beaucoup ce passage qui se trouve dans l'évangile de Jean. On aura l'occasion tout à l'heure, à la fin de ce message, de le lire ensemble. Jean chapitre 15, où le Seigneur nous dit à nous, disciples, « C'est pas vous qui vous êtes choisis, mais moi je vous ai choisis afin que vous portiez du fruit. » Et le Seigneur nous a choisis. Je voudrais que ce matin nous nous sentions accueillis par le Seigneur. Que personne ne dise « J'ai été l'oublié de Dieu ». Non. Peut-être tu te dis au fond de toi-même « J'ai raté ma vie ». C'est possible que tu puisses le penser. Mais je vais te dire que le Dieu que nous servons est un Dieu qui donne toujours une nouvelle chance. Vous connaissez cette parabole du potier où l'argile est entre les mains du potier. Quand le vase ne réussit pas, le potier le brise, ce vase, et il en refait un autre tel qu'il trouve bon de le faire. Ça veut dire que le Seigneur nous dit ce matin, vous êtes l'argile, vous êtes dans ma main, et si le vase n'a pas réussi, ben moi je vais faire en sorte que ce vase soit un vase d'honneur pour ma maison. Et donc tu es là ce matin, tu es peut-être découragé, mais le Seigneur veut te dire, mes yeux sont sur toi, j'ai entendu tes cris, j'ai entendu ton cœur, je connais tes souffrances, mais ce matin, je suis au milieu de mon peuple et je suis là pour toi et je descends pour te délivrer. Je descends pour t'apporter ce dont tu as besoin, pour te consoler, pour raffermir ta vie, mais pour te diriger, je te conseillerais, j'aurai le regard sur toi, nous dit le psaume, un des psaumes, le psaume 32, verset 8. Et j'aime beaucoup ce psaume qui nous parle d'une direction de Dieu. Alors ce matin, je voudrais vous parler d'un élément essentiel pour notre avancement, c'est notre caractère. Et notre caractère, c'est un des éléments les plus importants parce que le Seigneur veut réellement toucher ce domaine de notre vie pour que nous puissions aller plus loin avec lui. Et le caractère va avec l'onction, mais on peut très bien avoir une onction forte sur notre vie, mais gâcher tout par notre caractère. Et louper le but, rater notre vie à cause de cela. Et au fil des ans, moi j'ai vu des personnes avec un appel extraordinaire sur leur vie, des personnes auxquelles Dieu avait donné par prophétie des directions particulières, un appel très spécial, mais beaucoup d'entre ces personnes ont perdu l'opportunité de servir Dieu avec puissance à cause de cet élément qui n'a pas été compris et travaillé devant Dieu, qui n'a pas été modelé par le Seigneur. Et quand nous étudions le cas du fils prodigue, nous voyons que ce fils a demandé à son père tout l'argent qui lui revenait, et il est parti avec cet argent, il l'a dilapidé. Mais quand il est revenu dans la maison de son père, parce qu'il y a eu repentance dans son cœur, quand il est revenu, il était comme un étranger. Et pourtant, c'est une maison dans laquelle il avait grandi, une maison dans laquelle il pouvait faire ce qu'il voulait parce qu'il était réellement fils, mais quand il est revenu dans cette maison, il semble qu'il montre en tout cas qu'il était comme un étranger dans cette maison. Et c'est vrai que quelqu'un peut être dans la maison du Père, avoir tout de lui, mais tout perdre. Alors je veux vous parler ce matin de la vie des hommes de Dieu qu'il ne faut pas voir simplement dans leur point culminant, mais il faut la voir tout au long du chemin qu'ils traversent et du début à la fin de leur vie. L'onction, elle peut tromper, mais l'onction aussi peut te dévier. Un homme peut avoir des capacités telles que le Seigneur se sert de lui ou d'une femme pour guérir les malades, une onction pour guérir, une onction pour ressusciter les morts, etc. Mais ces gens peuvent tout perdre à cause de leur caractère. Et je crois qu'il est très bien de parler de l'onction, de la recevoir, de parler même de la puissance de Dieu, mais il est extraordinaire de recevoir cette double onction. Mais je voudrais vous dire ce matin de la part de Dieu que quand quelqu'un pense à l'onction qui est sur Élie, il se dit « ça c'est une onction que je voudrais avoir ». Et Élisée, quand il a vu Élie opérer des miracles, il a dit « mais ça je le veux ». Et vous rappelez que Élie lui a dit à Élisée « mais tu l'auras cette onction, tu auras cette bénédiction, à condition que tu ne me lâches pas, que tu me suives ». Et à un moment donné, Élie a essayé même par deux fois, il a essayé de lui dire, mais écoute, je vais là, à tel endroit, je vais à Jéricho, reste là et attends. Non, non, je vais avec toi. Il ne l'a pas laissé. Et à un moment donné, des chars sont venus prendre Élie, l'ont emporté, et il y a quelque chose qui est tombé du ciel, comme c'est un manteau, ce manteau d'Élie, et Élisée l'a saisi, et Élisée l'a pris, et lorsqu'il a rebroussé chemin, il a partagé les eaux comme Élie l'avait fait avec ce manteau, et il a fait le double des miracles que Élie avait fait. Il avait reçu réellement cette double onction. Et ça, ça fait rêver. Et je crois qu'on peut avoir cette capacité de ressusciter les morts, de voir des miracles, de diverses manifestations de la puissance de Dieu. Mais je crois que la puissance est moins importante que le caractère. Et le plus important, c'est la formation du caractère. Ce matin, je voudrais, dans une première partie, parce qu'il y aura une deuxième plus tard, donc je ne sais pas quand, hein, ça dépendra du calendrier, ça dépendra des dispositions, des ouvertures possibles. Mais je voudrais vous parler d'une première partie ce matin, de cette onction qui est là et qui peut être, que l'on peut saisir, que l'on peut attraper, mais qui n'est pas forcément une onction qui va faire de nous quelqu'un qui va percer. Ce matin, on a parlé de cette onction de percer. Dieu veut vraiment que nous réussissions. Dieu veut vraiment qu'il y ait succès dans notre vie parce que notre succès, c'est le succès de Dieu. Amen. Alors, on va parler de deux personnages. Ce matin, je voudrais vous parler du premier personnage qui m'a frappé dans la parole de Dieu. J'aime beaucoup lire son histoire. C'est l'histoire de Saül. Saül, un roi qui est le résultat de l'élection humaine et non du traitement de Dieu dans son caractère. Il a été choisi, on va lire ce passage qui se trouve dans 1 Samuel chapitre 8, et à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. 1 Samuel 8, donc si vous avez vos bibles électroniques ou en papier, ou si vous avez l'écran, ben voilà, regardez, c'est déjà affiché. Merci à la technique, hein. Merci à nos amis qui sont là et qui sont fidèles au poste. La Bible nous dit que le peuple de Dieu demanda un roi conforme à ceux des nations. D'accord ? Alors les anciens d'Israël se sont rassemblés et s'approchent de Samuel. Et voici ce qu'ils disent à Samuel. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » On veut copier sur les nations, n'est-ce pas ? Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Donc, Samuel est là devant Dieu et il décide de faire tout ce que l'Éternel lui a demandé de faire. Il rencontre donc un homme avec toutes les caractéristiques humaines spéciales, un homme qui a un port royal, donc c'est bien Saül dont on parle, c'est un très grand guerrier, donc il frappe les regards, il est beau, il dépasse de la tête tous les hommes d'Israël, et donc ça veut dire que toutes les filles tombaient en pamoison devant lui, n'est-ce pas ? Et il n'est pas le résultat, ce Saül, d'un processus, mais il est le résultat d'un traitement, il n'est pas le résultat d'un traitement sur plusieurs années, il est le résultat d'un cri, du cri du peuple de Dieu, on l'a vu ensemble, c'est un cri charnel, un cri d'un peuple qui ne veut plus Dieu, mais qui veut un homme, et un peuple qui veut copier sur les nations, qui veut faire comme toutes les nations. Et on trouve cela dans nos pays, n'est-ce pas ? On voit beaucoup de choses se passer, parce qu'on veut copier sur ce qui marche ailleurs, on veut faire pareil dans notre propre pays, et on envie souvent les autres, alors que finalement, pour chaque pays, il y a quelque chose qui est tracé. Et jusqu'à ce temps, Israël étaient jugés par des juges que Dieu leur donnait, des juges et des prophètes qui étaient finalement la voix de Dieu. C'est par eux que Dieu parlait, c'est au travers d'eux que Dieu opérait. Et on voit que lorsque les enfants d'Israël, on le lit dans un livre de l'Ancien Testament, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel. Et qu'est-ce que fait l'Éternel ? Il leur envoie un libérateur, un juge, qui vient, et on pourrait dire un homme de réveil, quelqu'un qui vient pour écouter ce peuple, mais donner une solution de la part de Dieu. Et donc il y a des moments où le peuple relève la tête, tantôt il est en bas, tantôt il est en haut parce que le juge est arrivé de la part de Dieu, et puis après, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel, et voici le peuple reparti vers le bas, et Dieu envoie de nouveau un libérateur qui va les aider à sortir de cette ornière. Mais maintenant, le peuple ne veut plus de la voix de Dieu, il veut un roi conforme au roi des nations. Et ceci est capital, c'est très simple, mais c'est très important. Parce que Saül, qualifié selon le concept des hommes pour être roi, n'était pas le résultat d'un processus divin. Dieu donne cet homme à Israël, à son peuple, parce qu'il laisse Israël marcher selon la volonté permissive de Dieu. Il y a la volonté directe de Dieu, mes amis, mais il y a aussi la volonté permissive de Dieu, c'est-à-dire cette volonté de Dieu de laisser les caprices s'exprimer. Parce que les gens, souvent, ils ont des caprices et ils disent « Seigneur, bénis mon projet ». Non pas « bénis le projet que tu as mis dans mon cœur, Seigneur », mais « bénis mon projet ». Voilà, j'ai un projet, je te le présente, mais bénis-le. Parce qu'on n'a pas voulu du projet que Dieu nous présentait. Donc la volonté directe de Dieu, c'est quand Dieu parle, quand les hommes reçoivent sa parole, ses directives, et quand ils obéissent à ses directives. Ça, c'est la volonté directe de Dieu. Dieu parle et nous faisons directement sa volonté. Qu'est-ce qui se passe quand on fait la volonté de Dieu ? Quand il a parlé, qu'on fait sa volonté ? Eh bien, il nous bénit. Amen. Parce que quand on parle à Dieu, il nous écoute. Moi, j'aime ce passage, c'est 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Quand on s'adresse à Dieu, il nous écoute. Mais nous avons cette assurance que quand il nous écoute, nous avons déjà reçu ce que nous lui avons demandé. Ça veut dire qu'avant même qu'on lui ait parlé, si on écoute Dieu, si on parle à Dieu et qu'on prie selon sa volonté, il nous écoute. Bien souvent, on prie selon notre propre volonté et on s'attend à ce que Dieu nous écoute. Non, il ne nous écoute pas dans ce cas-là. Mais là, lorsqu'on prie selon sa volonté, tout à coup, il nous écoute. Vous vous rappelez, on a dit dernièrement que quand l'esprit se meut quelque part, il suffit d'une parole pour que l'esprit saisisse cette parole et la chose s'accomplit. On a vu ça dans la création. La terre était informée vide, l'esprit se mouvait au-dessus de la terre et Dieu dit une parole. Que l'esprit va saisir, que la lumière soit. Et tout à coup, la lumière fut. Ça, c'est prier selon la volonté de Dieu. Et puis, la volonté permissive de Dieu, c'est quand l'homme ne veut pas obéir à Dieu et veut imposer sa volonté afin que Dieu soit d'accord avec lui, en fait. Et à la fin de l'histoire, Dieu dit, laisse-les aller dans leur volonté, et c'est ma volonté permissive. Ce n'est ni mon plan, ce n'est pas ma volonté directe, mais si au final ils veulent le faire, laissons-les faire. Alors Samuel, laisse-les faire. Ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette. Saül n'est pas le résultat de la volonté de Dieu, mais de l'élection humaine d'un peuple. En fait, il est le substitut d'un roi qui doit être le roi véritable que Dieu a prévu pour son peuple. Et Saül, c'est le protocole des leaders choisis par Dieu, choisis non pas par Dieu, mais par les hommes. Et c'est un leader conforme à la mentalité humaine, à ce que les hommes pensent de ce que doit être un leader. Et pour en finir, Dieu laisse agir la nation. Donc Samuel, parce que Dieu le lui a permis, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va oindre Saül. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que quand on voit l'onction que l'on place sur Saül, vous savez que lorsque le prophète venait, il venait avec de l'huile. Et j'aime beaucoup le symbole de l'huile. Lorsqu'on a parlé tout à l'heure d'être dans cette direction de Dieu pour recevoir sa volonté, il y en a qui se sont avancés en disant « Seigneur, je veux cette onction de percée pour ma vie ». La Bible nous dit que l'onction, l'huile, brise tous les jougs. Et lorsque Samuel a été oint, il a été oint avec une fiole d'huile, remplie d'huile. Une fiole, c'est-à-dire un récipient fait avec de la terre, avec de la glaise, avec de l'argile. Regardez la différence avec David, parce que le deuxième personnage dont on parlera, c'est David. David, lui, a été oint avec une corne. Et en pensant à ces deux symboles, la fiole qui a peu de profondeur, c'était un peu l'aspect du cœur de Saül, très, très peu de profondeur. Mais quand on voit une corne, c'est profond. Ça, quand on la remplit d'huile, il faut beaucoup d'huile pour la remplir. Et puis quand ça coule sur la tête, il y en a partout, quoi. Ça coule sur la tête, le long des vêtements, ça va jusqu'aux pieds. Hein. Et puis moi j'ai repensé à Caïn et Abel. Vous vous rappelez les sacrifices qu'ils ont offerts à l'Éternel? Il y en a un qui a offert les sacrifices venant de la terre, et l'autre qui a offert des sacrifices issus des animaux qui ont été sacrifiés. Et le regard favorable de Dieu a été sur le sacrifice d'Abel plutôt que sur celui de Caïn. Non pas que Dieu faisait des préférences, mais simplement, il y avait là une direction que Dieu voulait donner, c'est que les sacrifices allaient être faits plus tard pour couvrir les péchés, mais plus tard, l'agneau de Dieu va ôter le péché du monde, et son nom, c'est Jésus. Amen. Alors la Bible nous enseigne que Samuel a donné à Saül une parole, et l'a envoyé rencontrer une compagnie de prophètes. Saül n'est pas prophète, il n'a pas été formé en tant que prophète, et ça me rappelle un épisode de ma vie, où moi je ne suis pas un prophète, un ministère d'on prophète. On peut recevoir une onction prophétique, avoir un manteau prophétique, et pas forcément être un prophète. Et je me rappelle qu'on avait chaque année un séminaire que l'on a avec Jean Biville, qui était un apôtre, et avec qui je travaillais depuis des années. Et on avait un ministère qui s'appelait, enfin un rassemblement qui s'appelait les saints ministères d'on. Et à un moment donné, on avait un prophète parmi nous, mais vraiment un prophète, hein. Quelqu'un qui, quand il parlait de la part de Dieu, vous étiez radiographié, vous connaissiez il connaissait les détails de votre vie, enfin, disons, Dieu les mettait en valeur. Parfois, ça fait peur, hein, parce que quand il parle avec une précision à couper au fil du rasoir. Et je me rappelle qu'on était là, et lorsque la réunion était bien avancée, l'Esprit était en train de parler au peuple, il disait, voilà, je mets devant vous une table, et sur cette table, je mets des mets succulents. Venez vous servir. Et donc, le mot d'ordre pour le peuple, c'était de venir un par un et de poser symboliquement les mains sur la table et de dire, Seigneur, je reçois le meilleur cadeau que tu veux me faire, je reçois ta bénédiction, je reçois tes dons, je reçois tout ce que tu veux me donner. Je mets mes mains sur cette table et, Seigneur, je reçois ton cadeau. Et je me rappelle que les gens commençaient à défiler, les 20 premières personnes, elles sont venues, elles ont posé leurs mains et puis elles sont reparties à leur place. Puis à un moment donné, le prophète, je ne sais pas pourquoi, il a dérapé. On ne devait rien dire, nous on était là autour de la table et on voyait les gens défiler. Il s'est mis à donner une parole à la 21e personne. Et cette personne a entendu la justesse de ses mots et elle est retournée à sa place. Donc elle avait mis ses mains sur la table et elle avait reçu une parole. Mais alors les autres qui étaient passés avant n'avaient pas eu de parole, et bien, ils étaient un peu jaloux. Et puis au fur et à mesure que les gens défilaient, lui, il a continué à donner des paroles, mais des paroles qui allaient dans le mille. Mais vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? L'onction qui était sur cet homme, elle s'est répandue sur les cinq qui étaient autour de la table et qui dirigeaient et je faisais partie des cinq, l'onction est venue sur moi. Et à un moment donné, je me suis entendu commencer à prophétiser sur des gens, j'avais jamais fait ça de ma vie, alors après j'ai su que finalement, ce n'était pas moi, c'était vraiment l'Esprit de Dieu. Les gens sont venus me voir. Comment t'as fait? Tu ne connaissais pas ma vie et tu as dit exactement ce que... Je dis, ce n'est pas moi. L'onction est venue sur moi, m'a saisi et j'ai commencé à parler de la part de Dieu. Et Dieu est précis dans ce qu'il fait. Est-ce que vous croyez que cette onction a duré longtemps après? Non, c'était passager. Dieu s'est servi de moi de façon simplement passagère. Et puis après, je suis retourné à ma place et puis bon, tout s'est évanoui, je suis resté ce que j'étais, mais je n'ai pas de nouveau prophétisé comme cela. Vous savez, je me rappelle Moïse, l'onction qui était sur lui s'était répandue sur les 70, et il prophétisait dans le camp, même il y en a deux qui étaient à l'extérieur du camp, Dieu les a saisis par son esprit, et eux-mêmes aussi ont commencé à prophétiser. Donc, la Bible nous enseigne que Samuel a donné à Saül une parole, et l'a envoyé rencontrer des prophètes. Saül n'était pas un prophète, mais il n'a pas été formé comme prophète. Et tout à coup, voilà qu'il voit des prophètes descendre de la montagne, venir à sa rencontre, des prophètes qui chantaient, qui dansaient, ils prophétisaient, etc. Et Saül s'est mis à prophétiser comme les prophètes. Et là, on lit cette phrase qui est devenue célèbre. Saül fait-il partie de tous les prophètes, lui aussi, hein, pour, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Pour eux, pour les gens qui l'ont vu prophétiser, c'était du jamais vu. Saül n'était pas prophète et il n'avait jamais été formé comme tel, mais dès que l'onction est venue sur lui, il a été transformé en un autre homme. Est-ce que ce n'est pas votre prière, mes amis, que l'onction vous saisisse et que vous soyez transformé en une autre personne? Yes! Pardon, oui, on est en France. Moi, je pense que, enfin, ça, c'est ma prière, Seigneur, que l'onction vienne sur ma vie, mais Seigneur, sers-toi de moi. Transforme-moi, vivifie-moi, saisis-moi par ton esprit. Mais il y a une chose que nous devons comprendre ce matin, c'est que cette transformation, c'est une action extérieure, même si Dieu parle de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Dieu nous enseigne que cette onction qui est venue sur Saül, c'était comme une nouvelle robe, un nouveau revêtement, mais c'était comme quelque chose d'extérieur. Mais au plus profond de lui-même, il n'avait pas été transformé pour régner. Il n'avait pas été formé pour être un roi. Et c'est pour cette raison qu'il conserve beaucoup de choses à l'intérieur qui vont le conduire malheureusement à un échec et il va perdre la véritable onction. Dieu te donne l'onction, il te donne le double, il active les dons par son esprit sur ta vie, merci Seigneur, mais il veut que toutes ces manifestations se fassent en parallèle avec la transformation qu'il veut opérer dans ta vie, c'est-à-dire qu'il veut toucher ton être intérieur, il veut toucher ton caractère, il veut te transformer pour que cette onction puisse venir sur toi, rester sur toi, mais Dieu veut t'utiliser dans ton être tout entier pour que tu puisses toucher tous ceux qui te voient vivre. Alléluia. Alors, plutôt que de dépendre des dons, si tu ne fais pas attention, tu vas pouvoir peut-être imposer les mains aux gens et voir des guérisons se produire. Tu penses que les choses se produiront comme ça toute ta vie, mais tu oublies une chose, c'est que tu peux ne plus respecter les principes de l'autorité et que tout continue à aller bien comme autrefois. Parce qu'il y a une onction et que les gens la voient, puisqu'elle est comme un vêtement extérieur. Le problème est que si tu ne grandis pas à l'intérieur et que tu ne permets pas à Dieu de travailler ton cœur, de travailler ton esprit, ton habit va te perdre. Et c'est pourquoi je dirais ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment être saisis par ton esprit, mais nous voulons que tu continues à travailler nos cœurs pour que nous puissions être malléables entre tes mains, que nous puissions craindre ton nom, mais que nous puissions faire réellement, uniquement ta volonté. Et ça, ce n'est pas un travail qui se fait d'un claquement de doigts, c'est un travail qui se fait tout au long de votre vie. Tous les jours, Dieu vous donne l'occasion de grandir, vous donne l'occasion d'ouvrir votre cœur pour le laisser pénétrer, d'ouvrir votre vie pour le laisser regarder au fond de vous ce qui ne va pas. Mais Dieu veut réellement se servir de toi pour que tu puisses être utile entre ses mains. C'est ainsi que Jésus a parlé de certaines personnes qui ont opéré des miracles et qui ont vu des choses se manifester au travers de leur vie. Et ils ont dit, mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu, chapitre 7, versets 22 et 23. En vérité, ces gens n'avaient qu'un vêtement, ils coulaient dans des dons, mais ils n'ont pas fait le pas suivant, c'est-à-dire celui dans lequel Dieu nous traite à l'intérieur pour que son onction ne soit pas une onction extérieure, mais qu'elle s'unisse à notre caractère. Dieu veut vraiment que notre être tout entier lui soit consacré. Et c'est pourquoi je vous donne ce matin cette exhortation de ne pas rester ce que vous êtes, mais de demander à Dieu d'oser pénétrer votre cœur pour qu'il vous transforme de gloire en gloire par la puissance de son esprit, qu'il vienne dans votre vie. N'ayez pas peur de lui demander de venir, parce que quand il va venir, ce n'est pas pour vous pointer du doigt, n'est pas pour vous accuser, ce n'est pas pour vous reprocher quelque chose, mais c'est pour vous dire, je vais briser tes chaînes. Je vais ôter tout obstacle qui est dans ton cœur pour que je puisse envahir ton cœur, le remplir. Remplir le vase que tu es, le purifier, le nettoyer, le remplir d'une onction extraordinaire et puissante, afin que cette onction, elle ne reste pas au fond de toi, mais qu'elle sorte de toi et qu'elle touche des vies, qu'elle touche des situations, qu'elle touche beaucoup de choses en mon nom. Jésus veut le faire ce matin. Et le problème de Saül, c'est qu'il n'a pas été traité à l'intérieur, il n'est pas entré dans ce processus de formation, et il s'est retrouvé, lui qui cherchait des ânes pour son père, il s'est retrouvé avec un prophète, et quand on est chercheur d'ânes, on croise un prophète, on finit par être un roi. Vous vous rendez compte? Il cherchait des ânes au départ, il rencontre des prophètes, il prophétise avec eux, et plus tard il va se retrouver roi à la tête de ce peuple. Et il y a des gens qui se retrouvent avec un prophète, tout en étant des chercheurs d'ânes, ils se retrouvent avec l'onction, une parole, une prophétie, mais Dieu leur donne un message et on leur parle de leur destinée prophétique ce matin. Je voudrais vraiment que vous saisissiez que lorsque le prophète impose les mains, quelque chose s'active dans cette personne, quelque chose commence à bouger. Il y a des visions qui arrivent, il y a des rêves qui arrivent. La puissance de Dieu est là sur les gens, mais le problème, c'est que l'onction qui demeure n'est pas le résultat de l'imposition des mains, mais du traitement que Dieu veut faire dans le cœur de l'homme. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui doit résister au temps, mes amis. Moi, j'ai vu des gens avoir une onction passagère. Ils ont fait du bien pendant un certain temps. Mais cette onction, elle s'est comme évaporée. Et Saül ne l'a pas compris. Et c'est pour cette raison que, après avoir eu de grandes victoires, d'avoir prophétisé, d'avoir été même reconnu lui-même comme étant un prophète, après avoir eu des dons actifs, tout à coup, il se retrouve dans une situation où il doit démontrer, non pas uniquement l'onction extérieure, mais une soumission au prophète qui est au-dessus de lui, un respect à son sacerdoce, ce qui veut dire un respect à l'autorité de Dieu. Et ça, il en a été incapable. Donc, en ce temps-là, il y avait trois autorités, il y avait les prêtres, il y avait les prophètes et il y avait les rois. Les prêtres, les prophètes et les rois. Lui, il commençait par être un roi. Et son devoir, c'était de respecter les deux autres autorités, le prêtre et le prophète. Et quand il est arrivé, le moment de faire une cérémonie spéciale, Saül s'est cru prêt et il a manqué de respect à Samuel en ne l'attendant pas. Parce que le temps courait, Samuel était en retard, et puis la cérémonie devait commencer. Et lui, il bouillait d'impatience, il voulait être revêtu de cette onction, il voulait que le prophète... Voilà. Mais comme il tardait à revenir, lui, il a pris en main la cérémonie, et il a commencé à faire des choses qu'il ne lui était pas permis de faire. Et donc, il n'a pas respecté Samuel comme juge d'Israël, comme prophète de Dieu, comme sacrificateur d'Israël. Il ne l'attend pas. Il n'a donc pas respecté son autorité. Et ce qu'il a fait, c'était d'anticiper. Donc, il a commencé le boulot tout seul. Et c'est ainsi qu'il a pris la place du sacrificateur et du prophète. Et ça, c'est violer la souveraineté de Dieu. C'est violer les desseins de Dieu. Il a brisé l'ordre divin et Dieu s'est mis en colère. Et ceci venait se rajouter aux autres choses déjà commises. Et c'est pour cette raison que Dieu se met à se fâcher et il décide de le rejeter comme roi. C'est triste comme histoire, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est une réalité. C'est ce qui s'est passé. Et ce message est beaucoup plus sérieux qu'on ne pourrait le penser. Samuel cherchait des ânes pour son père, il rencontre des prophètes, il reçoit l'onction, mais le voilà roi et tout à coup, l'ordre du ciel tombe, il est rejeté par le ciel, il est rejeté par le Seigneur lui-même. Alors il n'y a plus d'onction, plus de privilèges, plus d'autorité, tout change. C'est comme si on lui mettait une nouvelle robe et une nouvelle fois, il redevient un autre homme, mais pas celui qu'on pense. C'est un homme confus, un homme qui, dans sa mentalité, ne comprend plus rien. Il n'entend plus Dieu, il ne reçoit plus de révélation de la part de Dieu, il n'a plus de valeur, il perd sa sensibilité, il perd le discernement à un point tel que quand il consulte Dieu, Dieu ne lui répond plus. Et on le retrouve en train plus tard de consulter des gens qui pratiquent la divination. Et il terminera, sa mort sera une mort tragique, n'est-ce pas? Et on le voit dans la parole de Dieu. Il a perdu la réalité spirituelle. Maintenant, l'onction ne le sert plus. Même si le vêtement était usé, il cherche une divineresse et cela irrite Dieu. Et la Bible nous dit qu'à cause de tout cela, Dieu l'a rejeté. Et plus tard, Saül va mourir. En d'autres mots, Saül est entré dans un processus de mort et c'est terrible cela. Alors mes amis, ce matin, on ne va pas parler de la mort, même si c'est le lendemain du jour des morts. On va parler de celui qui veut nous donner la vie et veut nous la donner avec abondance. Son nom est Jésus. Et j'ai beaucoup aimé l'introduction tout à l'heure de Nadine lorsqu'elle parlait dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, j'ai vu, j'ai entendu, mais je suis descendu pour délivrer. Dans le Nouveau Testament, on trouve dans Romains, au chapitre 8, c'est que l'Esprit de Dieu... C'est cet esprit qui nous affranchit de la loi du péché. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Ça veut dire, si tu es en train de tomber, de sombrer, de descendre, il y a la main de Dieu qui est là et qui descend sous toi, qui t'attrape, mais Dieu ne veut pas que tu restes en bas. Il te relève. Parce qu'il y a l'esprit de vie en Jésus-Christ qui t'affranchit de ce qui voulait te détruire, de la mort et du péché. Alléluia. Dieu te relève, il te saisit par son esprit, mais il veut te donner cette capacité de le servir dans une nouvelle dimension. Être loin, terminer sa vie en étant rejeté par Dieu, ce n'est pas notre désir. Un homme qui avait un appel pour régner, qui termine rejeté. Mais on voit que David, je vais juste introduire le début, parce qu'après il y aura des étapes, et ces étapes on les partagera ensemble. Quelles sont les étapes que David a franchies pour devenir un véritable roi? Vous vous rappelez quand David a commencé à être remarqué par l'Éternel? Il a été remarqué où, David? Voilà, il était en train de garder les troupeaux de son père Isaïe. Et vous savez, moi je pense à ça, il y avait les frères qui étaient là, qui étaient... certainement plus âgés que lui, puisqu'ils étaient à la guerre, donc ils avaient déjà plus de 20 ans. Et je pense qu'à l'époque, David devait être un adolescent ou un préadolescent. Il était très très jeune. Pourquoi est-ce qu'on l'avait envoyé garder les troupeaux? Vous savez, j'ai cette image d'Astérix, chaque album se termine par un banquet. Qu'est-ce qu'on attache à un arbre tout en haut? On attache le barde, hein, celui qui chante avec un instrument désaccordé, peut-être il chante faux, etc. On l'attache pour qu'il nous fiche la paix, il est bâillonné et il est là-haut dans son arbre. Peut-être qu'il agaçait ses frères, vous savez, David c'était un musicien, c'était un gars qui aimait la danse, qui aimait les réjouissances, et puis on l'envoie garder les troupeaux, peut-être on l'agaçait. Et puis lorsqu'on voit Isaïe qui reçoit Samuel, parce que Samuel l'envoie vers Isaïe, il lui présente qui? Il va lui présenter 7 enfants. Et les 7 vont défiler devant Samuel. Et moi, je crois qu'au milieu de tout ça, Dieu a un plan B. Lorsqu'il a rejeté Saül, Dieu ne permet ni la guerre ni la bataille. Il a toujours un plan. Et comme Saül marchait contre ce plan, Dieu avait en réserve un David. Et ça me réjouit. Regardez ce qui est intéressant. Dieu dit à Samuel, dans un moment précis, problématique, que c'est ceux qui sont loin extérieurement qui fonctionnent, mais à un moment donné, Dieu dit, maintenant, commence le plan B, tu vas aller dans cette maison, tu vas prendre une corne, tu vas la remplir d'huile, et tu vas aller oindre celui que je te montrerai. Et c'est là que Dieu dit à Samuel, prends cette corne d'huile, va dans la maison d'Isaïe, et puis tu vas oindre pour roi celui que je te montrerai. Mais je me mets à la place de Samuel, il est tellement traumatisé par ce qu'il vient de vivre, qu'il revoit l'image de Samuel, vous vous rappelez Saül, un homme baraqué, il dépassait de la tête tout le monde, il était beau de figure, il avait des muscles, il était, voilà. Et moi je crois que Samuel avait demandé à un roi quelques années en arrière, et quand il arrive dans cette maison d'Isaïe, il commence à chercher un roi qui ressemble à Saül. Le premier, Dieu dit, non, c'est pas celui-là. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Le deuxième arrive, ce n'est pas celui-là non plus. Finalement, le septième arrive, ce n'est pas encore celui-là. Sont-ce là tous tes fils? Isaïe réfléchit, ah non, j'en ai un, mais il est jeune. va le chercher. On ne mangera pas avant de l'avoir vu. Et lorsqu'ils vont chercher David, David revient vers la maison de son père. Et quand Samuel le voit, Dieu dit dans le cœur de Samuel, c'est lui. Oint-le pour roi au milieu de ses frères. Isaïe avait donc tous ses fils et on lui répond que le petit, il est en train de garder les brebis. Et David est apparu, mais dès que Samuel le voit, c'est lui, oint-le pour roi. La Bible dit qu'il était beau, mais on sait qu'à l'âge de 13 ans ou 15 ans, j'en sais rien, je ne sais pas quel âge il pouvait avoir, la personne n'est vraiment pas formée comme un homme en réalité. Et c'est pour cela qu'il lui manquait la stature, c'était un enfant. Et quand ils sont allés au combat, les frères de David avaient plus de 20 ans, ils ne sont pas tous allés au combat, mais il fallait au moins avoir 20 ans pour y aller. Et si tu es bon en mathématiques, tu t'apercevras que si eux avaient 20 ans, au moins 20 ans, lui pouvait avoir moins de 20 ans, il était donc un préadolescent ou un adolescent. Mais voyez ce qui se passe, c'est qu'environ 13 ans plus tard, il va devenir roi à 30 ans, mais il deviendra roi sur tout Israël simplement à 33 ans. De l'adolescence jusqu'à 33 ans, il y a eu tout ce parcours, et on va l'étudier dans un prochain message, il y a eu tout ce temps pour que David soit transformé par le Seigneur, pour qu'il soit apte à occuper les fonctions d'un roi sélectionné par l'Éternel et oint par Dieu lui-même. Ça met des années, mes amis. On ne forme pas un chrétien comme on fait un café instantané, on met la poudre dans la tasse, de l'eau chaude par-dessus et on a un café. Bon, pas très bon, mais on a un café quand même. Mais là, on ne forme pas un chrétien. Un chrétien n'est pas formé en un claquement de doigts comme cela. Et il y a bien des gens qui se sont, entre guillemets, plantés parce qu'on leur a dit, le prophète leur a dit, tu es appelé à tel ministère. Et là, les chevilles ont commencé à gonfler s'ils n'ont pas éclaté. Et quand ils sont revenus, ces jeunes dans l'église, ils ont dit au pasteur, voilà, je suis appelé à être apôtre, ou je suis appelé à être prophète, ou je suis appelé à être... Oui, d'accord, ok. Mais dans le cœur du serviteur de Dieu, il y a toutes ces années de préparation qui sont nécessaires. On ne prépare pas un jeune dans l'instantané comme cela. Eh bien, moi, je bénis le Seigneur pour tous nos jeunes qui entendent la voix de Dieu en ce moment dans notre église et qui sont là en disant, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Seigneur, où est ma place dans ton corps ? Seigneur, où dois-je servir ? Quelle est ma mission sur la terre ? Et si tu reçois du Seigneur une direction particulière, je vais te dire, Dieu va l'entendre, Dieu va se réjouir avec toi, mais Dieu va déclencher son plan dans ta vie, celui de te former, celui de t'équiper pour qu'à ton tour, au moment voulu, tu sois un vase d'honneur pour la maison de Dieu, une véritable bénédiction entre les mains de Dieu. Parce que ce que tu vas devenir, les autres vont le voir. Vous savez, quand on regarde, bon, maintenant c'est, quand on regarde les vignes, c'est tout jaune. Ce matin, en passant auprès de vignes, j'ai vu que certaines vignes étaient complètement nues. Maintenant, il n'y a plus de feuilles du tout sur certains pieds de vigne. Mais qu'est-ce qui attire quand on est en pleine saison de raisin ? C'est le raisin lui-même. Ce qui nous attire, ce n'est pas les branches, les sarments. Ce qui nous attire, ce n'est pas le tronc. On ne va pas en faire que des tire-bouchons de ce tronc. Non, ce qui attire, ce sont les fruits. Et quand on voit un fruit, on a envie de le cueillir et on a envie de le manger. Pas vrai ? Les fruits attirent. Et ce que Dieu veut, c'est que nous portions du fruit à sa gloire et que nous soyons réellement attirés et attirants pour ceux qui nous regardent vivre. Que nous donnions soif aux autres. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi au fait que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Mais pourquoi est-ce que Dieu dit « nous sommes le sel de la terre » ? Le sel, c'est un élément purificateur. Vous mettez du sel dans l'eau et ça purifie l'eau. Ça, c'est vrai. On conservait autrefois la viande, on n'avait pas de réfrigérateur, on conservait la viande avec le sel. On salait la viande, on salait le poisson. Comment ? Voilà. Mais le sel aussi, c'est un élément qui donne soif. Lorsque vous mangez quelque chose qui est trop salé, vous avez envie de boire après. Oui ou non ? Est-ce que nous allons donner soif à ceux qui nous entourent lorsqu'ils vont nous voir vivre ? Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes des éléments de purification. Quand un chrétien est quelque part, il apporte la présence de Dieu, il apporte la sainteté de Dieu, il apporte la lumière de Dieu. Mais quand un chrétien vit quelque part, il apporte cette soif dans le cœur des gens qui disent « Moi, je veux ressembler à cet homme. Moi, je veux ressembler à cette femme. Moi, je veux ressembler à cet aîné que je vois vivre, que je vois fidèle dans la maison de Dieu, que je vois porter du fruit. » Alors, mes amis, je crois que Dieu veut nous parler ce matin et il veut nous dire qu'il veut s'occuper de chacun d'entre nous. Et c'est vrai que quelle différence entre la mort de Saül et la mort de David. Les erreurs de Saül l'ont amené à la destruction, mais lorsque David a fait des erreurs, ça l'a amené à la grandeur. David était un homme selon le cœur de Dieu. Même s'il a péché au cours de sa vie, Dieu lui a pardonné, Dieu l'a rétabli, mais Dieu s'est servi de lui pour encore aller oindre d'autres personnes. Saül a voulu résoudre ses problèmes avec orgueil, mais David, lui, il l'a fait dans l'humiliation et avec humilité. Et c'est nous qui permettons à Dieu de nous traiter ou de ne pas nous traiter. Le destin de David, c'est de régner en Sion. Mes amis, Dieu le choisit pour être roi, c'est l'élection de Dieu. Est-ce qu'on n'est pas des fils et des filles de roi? Moi, je suis fils de roi. Je n'ai pas dit que j'étais roi, mais je suis fils de roi. Est-ce que tu peux dire ce matin, je suis fille de roi? Je suis fils de roi. J'aimerais que tu le prononces avec ta bouche ce matin et à voix haute. Je suis... Il y a plus de filles que de garçons ce matin. J'ai entendu beaucoup plus filles que... On va dire aux hommes de le dire à voix haute. Les hommes, je suis... Les femmes, je suis... Et tous ensemble, nous sommes... Alléluia. Le destin de David, c'est de régner en Sion. C'est Dieu qui choisit l'homme. Cela le conduit à un processus pour rendre cette personne capable d'exercer l'autorité. David est passé par ce processus, mais son destin, c'était Sion. Et son destin, ce n'est pas un destin à la manière de l'homme. David a voulu emmener l'arche à Sion, et il l'a fait par des moyens humains. Vous rappelez qu'à un moment donné, Uzza a voulu retenir l'arche, et il est mort. Bam. David était irrité. Il dit, mais comment ça se fait que... Et il a eu peur de Dieu ce jour-là. À tel point qu'il a fait mettre l'arche dans une autre maison que la maison qui était la maison de David. Mais la maison dans laquelle il a mis cette arche a été bénie. Et quand Dieu a vu que cette maison était bénie, il a fait revenir l'arche dans sa maison parce qu'il voulait aussi la bénédiction de Dieu. Mais Dieu a un plan pour l'Église et ce plan, c'est que nous puissions régner à Sion. Seigneur, Sion, c'est le lieu du gouvernement. Sion, c'est le lieu culminant du gouvernement. C'est l'endroit où Dieu délie l'onction. Et nous voulons que Dieu délie l'onction au milieu de nous. Alléluia. Nous voulons que Dieu fasse que beaucoup de gens se donnent à lui, au contact de sa parole. Que les perdus soient sauvés. Au nom de Jésus. Que les perdus abandonnent leur voie de péché et qu'ils se repentent de leurs péchés, qu'ils se tournent vers le Dieu vivant. Nous voulons voir les malades guéris dans cette église. Alléluia! Parce que si les malades sont guéris, les malades de nos rues, les malades qui sont dans les maisons de notre ville et dans les villages alentours, sauront qu'ici, il y a quelque chose de spécial qui se passe, et ils viendront pour être guéris. Mais pendant le temps où ils viendront pour être guéris, le Seigneur va s'occuper de leur âme, et le Seigneur va les sauver. Gloire à Dieu! Que Dieu nous aide à entrer plus profondément dans son plan. Mais lorsque tu es arrivé à cet endroit, que l'onction qui est sur ta vie, que l'onction qui est en toi, que cette onction puisse percer, mais Dieu va utiliser ton caractère plus que l'onction afin de pouvoir délier ceux qui t'entourent, afin de pouvoir les bénir. On va voir prochainement, je ne sais pas quand, est-ce que ça sera cette année, est-ce que ça sera l'année prochaine, mais il y a plusieurs étapes dans la vie de ceux qui sont loin, et on va voir... Dans la vie de David, il y a 4 étapes. Je suis en train de faire comme à la télévision, vous savez, il y a une émission qui est là, puis en bas de l'écran, il y a l'annonce de la prochaine émission pour attirer le téléspectateur, pour qu'il reste devant son poste et qu'il ne le quitte pas. Alors donc, je vais vous parler pour la prochaine fois des 4 étapes qu'a traversé David, mais ces 4 étapes, nous devons les traverser aussi nous-mêmes. Peu importe où nous en sommes, mais ce qui compte, c'est que nous allions plus loin avec le Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. J'aimerais qu'on aille ensemble vers Jean chapitre 15. Est-ce qu'on peut avoir Jean chapitre 15 maintenant, s'il vous plaît ? Jean 15, Alors je vais y aller moi-même. Une petite manip, si ça veut bien. Jean, chapitre 15, la sono... Enfin, la, ils vont être plus rapides que moi, certainement. Ça y est. J'y suis. D'abord, ça commence par « Je suis le vrai cep », au verset premier. « Mon père est le vigneron ». Ça tombe bien, on est dans une région viticole. Hein. « Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » J'aimerais t'entendre dire merci au Seigneur pour les choses difficiles que tu traverses en ce moment, pour les choses que tu n'aimes pas trop voir arriver dans ta vie, mais qui sont bien là, et de dire « Seigneur, il te plaît de me faire passer par ce chemin, mais je sais que tu as un plan précieux pour ma vie. Tu m'aimes et tu veux que je grandisse en toi. Alors j'accepte, mais j'accepte aussi ta délivrance. » Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez nous-mêmes si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors il y a porter du fruit, on est à porter beaucoup de fruits. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est rejeté dehors comme le sarment, il sèche, on le ramasse et puis on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous vous rappelez 1 Jean 5, 14 et 15, si vous priez selon sa volonté, il vous écoute. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Allô ? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est bon ? Mais moi, je vous ai choisi. Alors merci Seigneur pour ton choix. Merci Seigneur parce que ton regard se pose sur moi ce matin. Merci sur moi parce que tu es celui qui me délie de toute crainte, de toute peur, de toute accusation de l'ennemi qui voudrait me faire croire que je suis déchu, que je n'ai plus droit à la grâce, que je ne mérite pas. Ça, ce sont des mensonges que l'ennemi fait fomenter dans ton cœur. Tu vas maintenant t'en défaire de ces mensonges. Mais tu vas répéter dans ta prière et dans ta chambre peut-être, lorsque tu es seul avec Dieu, ce n'est pas moi qui me suis choisi, mais toi, Seigneur, tu m'as choisi. Je suis ton choix. Non seulement tu m'as choisi, mais tu m'as établi afin que j'aille et que je porte du fruit et que mon fruit demeure, afin que tout ce que je demande au Père en son nom, il me le donne. Waouh ! J'aime ce passage parce que ça déculpabilise, mais ça me montre l'amour que Dieu manifeste à mon égard. Dieu m'aime d'un amour extraordinaire. Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Dieu pour moi. Et cet amour, il va se traduire dans les jours qui viennent par un attouchement de sa part. Il va te rassurer. L'amour parfait bannit la crainte. Tes craintes vont s'en aller parce que tu seras dans la sécurité de sa présence. Mais ton Dieu veut te dire ce matin, tu ne t'es pas choisi, mais moi je t'ai choisi. Et ça me rassure. Et ça me dit que même si j'ai raté ma destinée jusqu'à présent, même si je n'ai pas atteint le but, ou si j'ai eu la volonté permissive de Dieu sur ma vie, parce que j'ai fait des choix, et ce n'était pas les choix de Dieu, le Seigneur me comprend, parce qu'il a été homme, mais il a été Dieu aussi en même temps. Et en tant qu'homme, il connaît nos faiblesses. Il connaît ce sur quoi nous butons chaque jour. Et il sait que nous avons besoin de sa grâce, que nous avons besoin de sa main puissante pour nous diriger. Mais il sait ce dont nous avons besoin. Et ce matin, je voudrais vraiment te rassurer et te dire que l'amour de Dieu est un amour qui va pénétrer ton cœur. Si tu lui ouvres ton cœur ce matin, cet amour va descendre dans ton cœur par le Saint-Esprit. Cet amour va grandir. La confiance en Dieu va se manifester. Et à un moment donné, tu vas pouvoir dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as choisi de faire de ma vie? Où me veux-tu, Seigneur? Comment veux-tu m'utiliser pour que je sois fidèle dans tes projets, fidèle dans la maison de Dieu? Alors merci, Seigneur, de ce que tu veux que je porte du fruit. Mais c'est ce que tu nous commandes, c'est de nous aimer les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Quand quelqu'un est faible, c'est le corps entier qui est faible. Mais quand quelqu'un se réjouit, c'est le corps entier qui se réjouit. On a entendu ce matin la bonne nouvelle de Marion qui a mis au monde un beau bébé. Eh bien, merci Seigneur pour ce cadeau que tu fais à l'Église. Croissance biologique de l'Église passe par les bébés, n'est-ce pas? Mais on a eu une bonne nouvelle ce matin. La semaine dernière, on a eu une autre bonne nouvelle. On s'est réjoui, on se réjouit encore cette semaine. Mais quand il y a une naissance, toute l'Église se réjouit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est triste ce matin qu'un bébé ait été rajouté au corps de Christ local? Personne ne peut lever. J'espère que vous n'allez pas oser lever la main pour dire « Ah non, je m'en fiche ». Non, on est tous concernés par cela, parce qu'on aime Marion, parce qu'on aime son mari, parce qu'on aime cette famille. Mais on s'est dit « Waouh ». Puis en plus, on a des grands-parents nouveaux là qui sont apparus au milieu de nous. Puis je vois la joie sur leur visage. Mais vous êtes heureux, mais on est heureux pour vous et on est heureux avec vous. Quand un se réjouit, c'est le peuple entier qui se réjouit. Alors prions les uns pour les autres. Et si quelqu'un a besoin de consolation, si quelqu'un a besoin de prière, si quelqu'un a besoin d'un appui, on est là pour dire à ces personnes, « Waouh, je suis avec toi, je vais prier pour toi, je vais te soutenir dans la prière. Tu passes par un moment difficile, mais je suis avec toi. » On pense ce matin à Marguerite et on dit, « Seigneur, touche Marguerite afin qu'elle passe ses semaines de soins, mais avec ta protection, mais en même temps avec ton bras puissant à ses côtés. Fortifie-la, bénis-la, bénis Heinz. » Bénis notre famille, Seigneur. Et je pense à tous ces cas que je ne vais pas citer un par un ce matin, mais Dieu les connaît. Que Dieu touche cette Église. Mais ce matin, que Dieu nous touche. Et que Dieu nous fasse nous lever pour lui en disant, Seigneur, mon regard n'est pas fixé sur moi, je ne veux pas me regarder dans la glace, comme il a été dit tout à l'heure. En essayant même de fuir mon regard sur ce que la glace me renvoie, mais je veux simplement te crier, je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue, Seigneur, de ce que je t'appartiens. Je te loue, Seigneur, de ce que tu as mis ta vie en moi, mais tu as promis de me la donner avec abondance. Alors je crois que tes chemins sont des chemins tout tracés dans mon cœur, et ce sont des chemins de bénédiction et non de malheur. Je ne suis pas la queue, je suis la tête. Que Dieu soit béni ce matin. Fortifie-toi, aie bon courage. Mets ta main dans celle du Seigneur. Ne lâche pas la main de Dieu. Et si tu l'as lâchée, remets ta main dans celle du Seigneur et il va te conduire vers de nouveaux pâturages. Il va te conduire dans des endroits paisibles. Il va restaurer ton âme. Il va te donner à manger. Il va oindre d'huile ta tête et ta coupe va déborder de nouveau. Et on va pouvoir chanter tous ensemble. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, merci pour ce matin, pour ces quelques pensées que nous avons pu partager ensemble. Je te prie, Seigneur, de ranimer la flamme dans chacun des cœurs. Tu n'éteins pas le lumignon qui fume. Seigneur, tu ne brises pas le roseau qui est froissé. Bien au contraire, tu es celui qui restaure ce qui doit être restauré. Et Seigneur, nous voici devant toi. Nos cœurs sont à nu devant toi. Rien n'échappe à ton regard. Mais ce matin, Seigneur, je te prie de toucher cette Église et de toucher ceux qui n'ont pas pu venir, mais Seigneur, à distance, là où ils se trouvent, tu les touches d'une façon particulière. Et pour nous qui sommes là ce matin, que ta bénédiction fonde sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous ne voulons pas chercher l'onction pour l'onction. Nous voulons simplement chercher ta face pour être à l'endroit où tu veux que nous fonctionnons, selon notre appel, selon nos dons. Et Seigneur, merci parce que si tu nous appelles à un certain endroit, tu vas nous équiper pour et tu vas nous donner tout ce dont nous avons besoin pour que la tâche soit accomplie avec ton succès, avec ta gloire, avec ta magnificence. Seigneur, ce matin, mon âme te loue, mon âme te bénit, parce que tu es celui qui relève la tête, tu es celui qui fortifie celui dont l'âme est abattue, tu es celui qui redonne la joie là où il y avait la tristesse, tu es celui qui restaure l'âme de celui qui languit devant toi, qui pleure devant toi. Mais Seigneur, ces choses, nous voulons les repasser dans notre cœur, comme le disait Seigneur Jérémie, qui disait, mais ces choses, je les repasse dans mon cœur. Chaque matin, tes bontés se renouvellent. Béni sois-tu pour la journée que tu as faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, ton peuple te loue, ton peuple te bénit, et ton peuple lance vers toi des acclamations, lance vers toi des cris de joie, des cris de victoire, des cris de triomphe, parce que tu as tout accompli à la croix du calvaire. Sois béni, Seigneur, sois remercié de nos cœurs, dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen.